Les Agités du Mois, une compilation non exhaustive des feuilletons diffusés dans les Agités du local du mois.
Nous sommes lundi et lundi, ça y est, c'est le premier épisode de notre nouvelle série à l'occasion de la semaine de la radio, une semaine qui permet évidemment de célébrer notre média, mais aussi de revenir sur son histoire. On fête cette année le centenaire des premières émissions radiophoniques émises depuis la Tour Eiffel et les 40 ans de la libération de la bande FM. Les premières radios libres sont nées justement à partir de 1980 et n'étaient pas toujours dans les règles, au moins au début. C'est le cas en Mayenne de RMS pour Radio Musique Service, une radio pirate créée par Christian L'Aigle en 1984.
Avec mon frère Stéphane, nous avons monté, ou du moins lancé, et puis expérimenté une radio locale dite libre et associative. Donc c'était début avril 1984 à Mayenne et ça s'appelait Radio Musique Service, RMS pour les intimes. Alors d'abord, faut dire que c'était mon métier hein, d'être... Mes parents avaient un commerce électroménager, radio, télé, hi-fi, et moi j'avais eu une formation d'électroacoustique et de multimédia. À l'époque, multimédia, c'était très limité, c'était surtout la radio. Et mon frère Stéphane était plus jeune que moi, il était passionné par la CB, la Citizen Band, ce qu'on appelait à l'époque la CB, qui était beaucoup installée sur les véhicules des routiers, mais aussi les particuliers. Et il y avait un véritable boom de cette communication entre véhicules. Un jour, on a acheté un émetteur en kit qu'on a monté et on a été très pressé de voir ce que ça donnait, quoi. Et donc, je crois qu'on a dû le monter en une journée et le soir même, on sortait une antenne par le vasistas de la maison des parents. Et il y avait des copains qui étaient dans un rayon d'un kilomètre et qui, avec un poste FM, rendaient compte de la réception. Et quand on a atteint 1,5 km, mais on était très heureux, quoi. Et donc, on a branché cet émetteur sur la table de mixage d'une sono qu'on avait. Et puis, on faisait un peu de soirée, etc., d'animation. Et voilà, c'est parti sur la musique avec le téléphone, qui était le fil, je dirais, d'Ariane, le fil vital pour qu'une radio fonctionne à l'époque. Et puisqu'on avait le contact direct avec les auditeurs, et ils nous appelaient pour demander, c'était carrément le disque à la demande tout le temps, quoi. Nos premiers auditeurs, je dirais, fidèles, c'était les gens qui étaient souvent à l'hôpital, qui étaient juste en face à peu près 400 mètres et qui étaient des fidèles auditeurs et qui appelaient la radio pour dire voilà, pour l'infirmière qui est très gentille, vous allez passer ce disque. Le studio, il est un peu dans les conditions où on était là. C'était une ancienne remise avec une table, un jardin. Et alors au début, c'est un groupe d'amis quoi, qui viennent. Voilà. On fait une émission tous les week-ends. Puis de week-end en week-end, on commence à faire des émissions plus construites avec des titres, avec des playlists. Enfin bref, ça pouvait être dans mes souvenirs l'inauguration d'un magasin, par exemple. Et donc, c'était nos premières sources de financement. Il fallait quand même acheter les disques et à l'époque, les vinyles n'étaient pas donnés, quoi. Hein. Et puis après, il a fallu avoir un émetteur plus gros parce que les voisins commençaient à se plaindre qu'en regardant TF1 ou leur feuilleton, ils avaient aussi les harmoniques de la radio. Et là, on avait 100 watts d'émission. Donc 100 watts, on faisait 5-6 kilomètres, on était heureux. On était pirates hein, puisqu'on n'avait aucune autorisation d'émission. On ne voyait pas la nécessité de passer, d'avoir des autorisations, etc. quoi. Et donc très rapidement, bien sûr, on a eu des courriers de TDF à l'époque, Télédiffusion de France, qui nous arrivaient en disant « Attention, il y a une règle, il y a une législation ». Puis bon, le jour où l'équipe de Télédiffusion de France descend et vient faire des mesures sur l'émetteur, la conformité, etc., on commence un peu à s'inquiéter. Et là, on commence à faire une demande de fréquence, parce qu'à l'époque, il fallait demander sa fréquence.
Et vous entendrez la suite demain pour découvrir comment la radio s'est adaptée et s'est développée jusqu'au début des années 90. Puisque que les premières radios libres sont nées à partir de 1981. 1984 d'ailleurs plus précisément pour la création de RMS Radio Music Service créé à Mayenne. On a entendu son président fondateur Christian L'Aigle hier, il nous a raconté la création de la radio, donc les tout débuts, et nous allons entendre aujourd'hui ce qui s'est passé ensuite. De la demande de fréquence jusqu'à la fin de la radio en 1993, mais n'allons pas trop vite puisqu'on s'était arrêté donc début 1985.
Et là, on a passé carrément une convention avec TDF et ils nous ont dit « Ok, votre émetteur en centre-ville Hygène, bah, si vous voulez, il y a de la place sur l'émetteur de la caserne Méran, vieille route d'Ambrière. » Et là, on est passé avec un émetteur et là, on arrivait à Louverné, de Mayenne à Louverné, quand même, aux portes de Laval. C'était quand même intéressant. Et donc, on a réussi à avoir l'autorisation d'une fréquence qui nous a été attribuée. Ça a duré peut-être 6 mois. Mais par contre, à un moment, on a été sommé, bien sûr, d'arrêter. Alors là, c'était la grosse catastrophe. Il y avait carrément une manif devant les studios en train de dire « Non, non, n'arrêtez pas. De... » Là, on était vraiment rentré en piraterie, quoi. On était illégal. On a eu l'autorisation... d'émettre. Alors on était très prudents, donc on faisait les horaires où on savait qu'il n'y avait pas l'administration n'allait pas venir quoi. Le vendredi après 18h on était libre hein, avant le lundi voilà. Donc en fait on a émis pendant un temps en vraiment en station pirate et à l'époque il y avait deux autres radios concurrentes qui se montaient sur la ville. On avait des concurrents indirects, même très agressifs hein. La concurrence c'était coup de fil anonyme, des lettres anonymes, des dénonciations, des choses comme ça. Ah oui. Petit à petit, on s'est un petit peu fédéré en radio départementale. À l'époque, il y avait Radio Périne sur Laval, il y avait Radio Maine-Angevin, il y avait les différentes radios sur Alençon, Normandie, enfin bref. On s'échangeait des bons plans, quoi, des choses comme ça. À un moment, on arrive, le nerf de la guerre, c'est quand même les finances, parce que mon frère avait été salarié comme directeur, on avait une animatrice quasiment permanente, on avait les deux tucs, ça faisait quand même du personnel, quoi. Toutes les radios nationales, les chaînes nationales nous veulent un petit peu mettre leur marque. Nous, on cherche des programmes, on cherche à augmenter notre audience et tout. Donc, on est passé dans le réseau énergie, Fun Radio, voilà. Et, ouais. C'était une franchise. C'est-à-dire qu'on leur reversait une royalty, ils nous redonnaient des programmes et on démarchait la publicité. Ils avaient une commission sur la publicité. Lorsqu'a fallu négocier la fin de la radio, on a revendu la fréquence à Énergie qui est devenue Énergie Mayenne. Et voilà. Mais c'est surtout l'ambiance, c'est ça. Quand on dit que ça a été des années, c'était un petit peu des années folles, mais quand on est passionné, on est dedans, on ne voit pas. Si on réfléchissait à ce qu'on va faire, non, ça, on ne l'aurait jamais fait. Mais il y a tellement eu de bonheur et de rencontres, etc., qu'en fait, on dit, bah, ouais, ça fait partie de la vie, c'est des expériences.
Et pour réécouter le tout premier épisode avec Christian L'Aigle, là aussi, rendez-vous sur l'autreradio.fr. Petite précision, Christian L'Aigle parle de TUC dans le son. Alors ce sont des emplois jeunes qui avaient été développés avec la préfecture à l'époque. Demain, on sort du coup de RMS. Hein. On va justement tracer l'évolution de la radio, non pas que en Mayenne, mais aussi au niveau national, depuis cette fameuse libération des ondes en 1981. Troisième épisode de notre feuilleton spécial radio cette semaine. Les deux premiers, si vous les avez manqués, lundi et mardi, étaient consacrés à cette aventure assez folle de RMS, Radio Music Service, une radio libre créée en 1984 à Mayenne par Christian L'Aigle et son frère. Radio qui a été pirate quelques temps, mais a perduré ensuite sous une forme plus légale, on va dire, jusqu'en 1994. Et aujourd'hui, on dézoome un petit peu et on va s'intéresser à l'histoire de la radio en France, puisqu'en 2021, on fête donc le centenaire des premières émissions radiophoniques diffusées depuis la Tour Eiffel. Évidemment, la radio existait déjà auparavant, je ne vais pas revenir sur toutes les découvertes scientifiques qui ont permis son apparition depuis 1837, et elles sont nombreuses, mais la TSF, la télégraphie sans fil, a joué un rôle stratégique, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Elle est ensuite devenue média, la radio, avec cette date symbolique donc du 26 novembre 1921, avec la première émission de radio en direct, pendant laquelle la cantatrice Yvonne Brottier, de l'Opéra Comique de Paris, a chanté la Marseillaise. Le son a été diffusé lors d'un banquet organisé par l'Association des ingénieurs de l'École supérieure d'électricité, et la chanteuse se souvient de l'événement, de cet événement historique sur France Culture.
Je prenais part à l'expérience, j'étais dans le bain avec tous ces messieurs, n'est-ce pas? J'avais peur que des parasites et de la tour Eiffel.
Je suppose que là-bas, à Saint-Assise, enfin, ça devait tout de même vibrer ferme.
Oh, ça a été une chose inoubliable pour moi de voir l'émotion qui avait précédé d'ailleurs cette expérience. Tous les jours précédents, avec tous ces ingénieurs, nous avons fait 1000 expériences. Ces gens étaient bouleversés, avaient les larmes aux yeux, n'est-ce pas? Et moi-même, je regrettais de n'y rien comprendre, car inutile de vous dire que j'étais là tout à fait en sourde et en aveugle.
La cantatrice, qui d'ailleurs ne pensait pas qu'ensuite la radio allait avoir cette importance. La première radio d'État, sobrement nommée poste d'État de la Tour Eiffel, a d'ailleurs été créée juste après. Puis en 1922 apparaissent les premières radios privées. Et au début, donc, on était vraiment sur des lectures d'articles écrits. Et puis on passe à des journaux parlés, de la musique, des feuilletons culturels. En 1933, Georges Mandel, le ministre des PTT, crée une redevance pour soutenir les radios publiques. Et pendant la Seconde Guerre mondiale va se jouer la guerre des ondes entre Radio Londres, diffusée sur les antennes européennes de la BBC, et Radio Paris, la radio de la propagande allemande. Et c'est justement sur Radio Londres que le général de Gaulle a fait son célèbre appel du 18 juin 1940.
J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Radio Londres, qui a été aussi très importante dans la transmission d'informations codées aux résistants avec les fameux messages qui sont assez connus là aussi. Après-guerre, en 1949, est créé ce qui s'appellera plus tard l'ORTF par le ministère de l'Information. ORTF pour Office de Radiodiffusion Télévision Française. Toutes les radios sont donc nationalisées. L'ORTF qui donc va perdurer jusqu'en 1974 où elle sera démantelée avec là 7 organismes instaurés. Radio France, TF1, Antenne 2, FR3, TDF pour Télédiffusion Française, la SFP, la Société Française de Production, et l'INA, dont sont extraits d'ailleurs la plupart des sons que je vous passe en ce moment. En parallèle, se créent quelques radios pirates, mais en France, elles vont mettre du temps à arriver. Hein. Il faut attendre 1979 pour entendre Lorraine Cœur d'Acier, la radio du syndicat CGT en lutte contre la fermeture des usines du milieu de la sidérurgie. Et 2 ans plus tôt, il y avait déjà eu en 1977 Radio Verte Fessenheim, la voix des opposants au projet des centrales nucléaires, qu'on entend dans cet extrait de reportage d'Antenne 2.
Radio Verte, première diffusion, émission manifeste.
Les radios vertes sont arrivées hier sur Paris, bravant la loi, ouvertement, puisqu'on leur avait refusé leur demande de dérogation au monopole. Elles sont arrivées par provocation, pour rompre les carcans de la non-communication, pour protester contre la mainmise sur la France du monopole d'État.
Et donc effectivement, c'était extrait d'un reportage d'Antenne 2 diffusé en 1977. Et puis bien sûr, moment phare, hein, le 9 novembre 1981, la loi sur la libéralisation des ondes qui permettent aux radios locales privées, associatives ou commerciales d'arriver en masse dans le paysage médiatique. La publicité, elle, est autorisée 3 ans plus tard, à partir de 1984. Et les radios deviennent donc des entreprises commerciales et Énergie fait partie justement des premières radios musicales.
Énergie, énergie, jusqu'au bout de la nuit.
des jingles bien différents évidemment de ceux qu'on peut entendre aujourd'hui. Au niveau historique, il y a eu ensuite une date importante en 1989, la création du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, qui institue 5 catégories de radios, parmi lesquelles on retrouve les radios A, les radios associatives, comme ce que vous écoutez en ce moment, l'autre radio, les radios B, les radios locales indépendantes, et puis les radios C, c'est les radios locales franchisées, des radios nationales avec un décrochage local. Et puis plus récemment, depuis une quinzaine d'années, se développe la radio numérique terrestre, qu'on appelle également DAB+, qui là aussi prend de l'essor, mais ça c'est une autre histoire, on en parlera vendredi. On va s'intéresser aujourd'hui à la diffusion radio, comment on obtient une fréquence et comment on la conserve ensuite. C'est le rôle notamment du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et de ses émanations en région, les CTA, les comités territoriaux de l'audiovisuel. Claude Hémer est membre du CTA de Caen depuis mai 2018, le CTA de Caen qui s'occupe des 4 départements normands, de la Mayenne, de la Sarthe et de l'Eure-et-Loire, avec une première question à lui poser. Quelle est la vocation du CTA ?
C'est de surveiller que les conventions soient bien respectées, d'être informé dès que nécessaire lorsqu'il y a un changement au niveau du conseil d'administration de la radio, ou au niveau du bureau, ou au niveau des programmes, car vous le savez, mieux que quiconque à l'autre radio, vous êtes tenu par des engagements eu égard à la convention que vous avez signée avec le CSA. Engagement de temps d'antenne locale la journée, de temps d'antenne locale le week-end. Donc tout cela doit remonter au CTA, qui le gère en local. C'est une des actions du CTA. La seconde, et on s'aperçoit qu'il y en a énormément aujourd'hui dans notre région et dans les autres CTA, c'est des demandes d'autorisation temporaire. La radio, on s'aperçoit aujourd'hui, est un formidable outil pédagogique et beaucoup d'établissements scolaires, par exemple, ou de radios à vocation pédagogique comme la vôtre, souhaitent faire une immersion dans un collège, dans un lycée, pour aller enseigner la radio et l'art de faire de la radio. Le CTA instruit la demande, vérifie que l'ensemble des documents demandés qui certifient le sérieux de l'association, la secrétaire générale complète le dossier et l'envoie au CSA après avis du CTA. Il y a des réunions plénières à Paris, au CSA, avec les sages, et c'est à Paris que la décision définitive est prise. Il y a une reconduction tous les 5 ans, reconductible par tacite reconduction 3 fois, donc valable 15 ans, sauf si il est noté, et ça c'est le CTA qui est chargé de ça, d'un non-respect de la convention qui a été signée entre le CSA et l'association. C'est assez rare. Écoutez, moi depuis 2018, à part une radio que je ne citerai pas et qui était borderline, surtout dans le contenu éditorial, je n'ai pas connaissance d'interruption de programme demandée par le CTA et acceptée par le CSA. Le spectre FM est saturé, donc récupérer une fréquence FM aujourd'hui, c'est quasiment impossible, sauf abandon d'une fréquence dans votre zone et que il y a ce qu'on appelle un appel à candidature. Si cet appel à candidature se fait en votre faveur, vous récupérez une fréquence. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune fréquence FM de disponible dans nos 7 départements sous la responsabilité du CTA.
Effectivement, ce qui peut entre autres expliquer le déploiement de la radio numérique terrestre, ce qu'on appelle aussi le DAB+, le DAB+. On explique tout ça en détail dans notre épisode de demain, puisque ce sera le sujet principal. C'est le 5e et dernier épisode de notre feuilleton spécial radio cette semaine, à l'occasion des 100 ans de la première diffusion radiophonique depuis la Tour Eiffel, mais aussi à l'occasion des 40 ans des radios libres. Depuis, bien sûr, le média a évolué, sa technologie aussi, et depuis une quinzaine d'années se développe la radio numérique terrestre qui utilise la technologie du DAB+ pour Digital Radio Broadcast. Explication avec Claude Hémer, membre du CTA, le comité territorial de l'audiovisuel de Caen, l'équivalent régional du CSA.
Ça passe par la voie hertzienne. Au lieu d'avoir une fréquence pour une radio, on monte 9 radios sur un même multiplexe. L'avantage du DAB, hormis le côté qualitatif, sonore, le côté numérique, une fréquence sur un multiplex permet à plusieurs radios d'émettre, indépendamment chacune, bien entendu. Ça permet de moins encombrer le spectre. C'est exactement la transposition de ce qu'a été la TNT pour la télévision. Vu le coût que représente un multiplex, ce coût est divisé par autant de radios qui montent sur ce multiplex. Le poste de radio en tant que tel, surtout pour les jeunes générations, n'est plus forcément le support idéal sur lequel ils écoutent la radio, si tant est qu'ils écoutent la radio. Mais c'est une très bonne observation. Si vous écoutez la radio sur votre iPhone, vous êtes déjà en numérique. Le concurrent direct du DAB aujourd'hui, c'est la radio par IP, par Internet, puisque vous avez la même qualité, c'est du numérique. Sauf que par Internet, ça passe un moment ou un autre par du filaire, sauf avec l'iPhone, quand vous êtes à l'extérieur, c'est directement relié au satellite. Tandis que lorsque vous êtes chez moi, à côté de là où je me trouve, où je vous parle, j'ai un ordinateur. Si je vais écouter votre radio que j'ai écouté hier ou toute autre radio du monde entier, je l'écoute sur Internet. J'ai même un poste dédié où je peux écouter toutes les radios du monde. Le podcast, c'est une forme de radio. Déjà, s'ils écoutent le podcast issu d'un programme radio, c'est une façon de se rattacher à la radio. L'avantage du podcast, c'est que si vous ne voulez pas écouter les grosses têtes en direct, vous allez écouter le podcast. Si vous ne voulez pas écouter Stéphane Maire sur Europe en direct, vous allez écouter le podcast d'Europe. À Inter, ils ont podcasté toutes les émissions. C'est au moins un lien avec la radio. Là où il y a un danger, au niveau des toutes jeunes générations, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'au-delà de 25 ans, les jeunes ont besoin d'avoir de l'info. Ce sont des adultes, ils ont besoin d'avoir de l'info, donc ils se rapprochent des radios, quelles qu'elles soient. En revanche, la génération à 13 ans, puisque le Médiamétrie commence à faire ses enquêtes à partir des 13 ans et plus, je dirais 13-20 ans, c'est la ZIC, hein. Ils écoutent de la ZIC.
Avec quelques nuances à apporter, hein, cependant, puisque selon une étude Médiamétrie, les podcasts natifs, c'est-à-dire ceux qui ont été créés spécialement pour une diffusion sur Internet et non pas la rediffusion d'un contenu radio, près de 20% des 15-24 ans écoutent ces podcasts natifs.
We'll have it gone. imaginer un gars de la huile qui ne supporte pas d'être dans la huile.
Ouais.
Qui n'est pas à sa place dans la huile.
Ouais.
Qui se sent pas à sa place dans la huile. Voilà.
Et puis, ouais.
L'autre radio.
On va parler d'un autre événement, alors pas forcément d'un lieu, mais en tout cas d'un événement emblématique de Laval désormais, le Festival des Trois Éléphants, qui forcément cette année se réinvente. Et on va détailler cette évolution cette semaine dans notre feuilleton. Pas de concert cette année, mais une exposition rétrospective au Jardin de la Périne. Et ce week-end du 29 et 30 mai sera dédié aux arts de rue, mais aussi, dès à présent, vous les avez déjà aperçus, j'en suis sûre, de grandes œuvres à retrouver un peu partout dans le centre-ville de Laval. Il y en a une que vous ne pouvez pas manquer, c'est celle de la place du 11 novembre au niveau des jets d'eau. Elle est signée Grand Géant, et l'un de ses deux créateurs, Cédric Mautier, revient sur ce projet.
À la base, en fait, on nous a sollicité pour fabriquer un décor pour cette année un peu différent des autres années, c'est-à-dire de mettre en place quelque chose sur une place de Laval. On a choisi la place du jet d'eau, qui n'était pas notre premier choix, mais au final, on a voulu utiliser cet endroit en se disant que c'était un endroit un peu emblématique aussi bien de notre jeunesse, parce qu'on est lavallois avec mon collègue Joe. Et c'est un endroit qui est un peu central, et pour le coup, on a décidé de transformer la fontaine du jet d'eau en cascade du jet d'eau, de faire un assemblage de bois et des bacs qui font monter l'eau, enfin des pompes font monter l'eau en haut de la structure et descendre tranquillement jusque dans le réceptacle. Les trois éléphants ont été plutôt malins cette année, c'est qu'ils ont décidé d'investir de l'argent dans la déco, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de festivals avec qui on travaille. On a décidé de leur fournir, de leur fabriquer des châssis en bois. Donc on les verra l'année prochaine, parce qu'à la base, on a commencé à modéliser avec des châssis en bois sur cette place-là, dans la cascade. Et en fait, ça nous plaisait pas. Et puis pour le coup, on a repris l'idée de la cascade via des œuvres d'art contemporain qu'on a déjà vues par-ci, par-là. Et du coup, on s'est dit, on va faire plutôt ça cette année. Ça nous paraissait plutôt logique. Et pour le coup, on a laissé nos châssis en bois sur nos palettes au stockage. Et comme ça, au moins, on a fait quelque chose qui nous plaisait plus. On aurait tous aimé voir Girls in Hawaii, Jane Birkin jouer dans les salles. Hein. Après, on est content parce qu'on a réussi à travailler. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas fait un festival, que ce soit ici ou ailleurs. Rien que de travailler, de se retrouver avec les amis, c'est déjà un bon point pour ça. Ça fait 10 ans qu'on est aux Trois Éléphants. D'habitude, on a un club à décorer. Il y a la troisième scène, celle qui s'appelle le Club Grand Géant. Donc il y a cette partie-là, on a souvent un bar à décorer, on a tout un environnement à décorer, et ça prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus de moyens. Là, c'est une installation qui est certes éphémère, qui est un peu plus petite, mais ça a été très rapide en installation, parce que c'est des matériaux qu'on maîtrise. Et en gros, ça dépend et du format du festival et de la masse de travail qu'il y a à faire, soit en atelier ou sur le montage. On a eu une fenêtre de tir, un peu comme nos amis d'Archicombi, l'année dernière, en septembre. Il y a une espèce de moment un peu magique, là, en septembre dernier, où on a été faire un festival à Orléans. Ça s'appelle Hop Hop Hop. C'était le seul de l'année. Après, au niveau de la perte d'activité, nous, on a préféré d'évoluer. On a eu la chance d'avoir un gros chantier l'année dernière. On a refait la décoration de la salle du Liberté. Et on a monté une entreprise parallèle à Grand Géant, qui nous permet de scénographier et d'inventer des choses qui ne sont pas forcément du permanence. Puis on a construit des choses en atelier, on n'a pas perdu notre temps.
On vous reverra de toute façon, j'imagine, aux Trois Éléphants en 2022 sur une édition un peu plus conséquente.
On espère, puis de toute façon, les 200 châssis qu'on leur a fabriqués, il va falloir qu'on les remonte. Donc, on est sûr de revenir, je pense.
Comme Grand Géant, les œuvres de trois collectifs de déco sont à retrouver dans le centre-ville lavallois. Elvis & Co sur la promenade Anne d'Allègre, Chat sur le square de Boston et Archicombi dans la cour du Vieux Château. Demain, on prendra la direction du jardin de la Périne pour une très riche expo photo, vous l'entendrez. Simon Hermine, le responsable de la communication pour le festival, se dit satisfait de ce programme au vu des conditions sanitaires.
Ça a été une édition un peu compliquée à mettre en place, évidemment. Nous, l'édition du festival, on commence à la travailler quasiment un an à l'avance. Donc là, cette année, on est passé un peu par toutes les étapes. On a eu beaucoup de scénarios différents. On a, dans un premier temps, espéré vraiment pouvoir faire une édition normale, donc avec la partie concert, avec un public debout. En temps normal, sur deux soirs, on est à 5000 personnes par soir. Debout avec voilà, des buvettes, etc. Un festival comme on peut l'imaginer. Plus le temps avançait, plus ça devenait compliqué pour nous de nous projeter dans une édition comme ça, parce qu'on voyait bien la situation complexe arriver. Donc on a eu d'autres scénarios par la suite avec des concerts qu'on aurait pu imaginer avec un public assis. On a la chance d'être un festival de centre-ville qui bosse énormément avec la ville de Laval, donc on avait cette possibilité de nous adapter, de pouvoir imaginer des concerts dans différents lieux, que ce soit au 6 par 4, au Théâtre de Laval, à l'avant-scène, etc. Ça, c'est un scénario qu'on a essayé vraiment de garder le plus longtemps possible. Et puis malheureusement, là, il y a 2-3 semaines, c'était vraiment trop compliqué de pouvoir continuer à espérer, parce que les artistes parfois annulaient d'eux-mêmes parce que leur tournée était complètement annulée. Un festival, ça met vraiment beaucoup de temps à s'organiser, parce que tout se passe en un week-end, mais du coup, tout est très bien rodé à l'avance pour que tous les engrenages puissent bien tourner dans le même sens au même moment. Donc voilà, ça a été un peu compliqué à mettre en place, mais on reste malgré tout assez fiers de l'édition qu'on peut proposer cette année, parce qu'il y aura des propositions d'art de la rue, parce qu'il y a pas mal d'expositions. On a aussi une exposition en lien avec le musée d'art naïf de Laval, que vous pouvez voir dès maintenant et qui va rester pour le coup jusqu'au 19 septembre. On a aussi une exposition en lien avec une école avec qui on travaille depuis 2 ans, une école qui est dans le Loiret, à Villemurlin exactement. Les élèves depuis 2 ans ont fait des peintures en s'inspirant des photos de presse des artistes que les trois éléphants étaient censés accueillir. Et on était censé accueillir toute l'école, c'est une petite école, on était censé les accueillir sur le festival cette année, malheureusement du coup ils vont pas pouvoir venir. Mais on va exposer du coup toutes leurs peintures dans les maisons de quartier de Laval, dans les bibliothèques de Laval et chez certains commerçants du centre-ville aussi qui ont bien voulu nous donner un petit bout de vitrine pour exposer tout ça. La direction de l'école est très intéressée par le milieu culturel. Ils sont bénévoles pas mal dans des festivals de leur région, au Pop-Up notamment, qui est un festival à Orléans. Ils ont dû venir, je pense, une année sur le festival et je pense qu'ils se sont rendus compte à quel point les Trois éléphants, c'est un festival qui est assez chouette pour accompagner un groupe, parce que finalement il est assez sécurisant. C'est en centre-ville, donc c'est peut-être plus facile de pouvoir loger toute une école quelque part. Puis il y a des propositions d'art de la rue toute la journée. Toute la journée, on a de quoi s'occuper et occuper des petits enfants de CP jusqu'à CM2. Donc il y avait vraiment tout un projet avec cette école qui sera, je pense, reporté les années futures, j'espère en tout cas, parce que c'est des trucs qui nous plaisent énormément.
Affaire à suivre en tout cas. Demain, on restera dans cette ambiance petits oiseaux au jardin de la Périne et on va réellement découvrir cette exposition rétrospective un peu plus en détail. Qui a demandé un long travail de sélection parmi les riches archives du festival. Balade guidée avec Anaïs Garnier et Simon Hermine, en charge de la communication pour les Trois éléphants.
Alors, on a voulu faire un peu une rétrospective sur le festival. Donc, il y a des photos qui débutent vraiment depuis la création du festival à Lasser les Châteaux, en passant par l'arrivée à la plaine d'Aventure, et des photos qui sont plus actuelles aujourd'hui sur la place de RC à Laval dans le centre-ville. Donc il y a vraiment des photos qui représentent tout le festival, que ce soit le côté un petit peu artistique, des photos donc de concerts, des photos de foule. Il y a aussi toute la partie art de la rue et tous les à côté en fait du festival, donc des portraits. Il y a vraiment une globalité en fait de choses sur le festival. Il y a une petite notion chronologique sur le début de l'expo où justement on va partir un peu de Lasset, puis pour aller ensuite vers l'évolution du festival avec son arrivée à Laval. Et puis après c'est plus des petits pôles où on va mettre quelques artistes à droite à gauche. Enfin, on a voulu mixer un petit peu quand même les différentes sortes de photos pour que ce soit plus agréable et plus ludique aussi.
La première photo du coup commence en 2004, même si le festival a été créé en 98. C'est une période où c'est compliqué de retrouver les archives. On a réussi à retrouver des photos argentiques qui ont été numérisées. On reconnaît derrière le clocher de Lasset les Châteaux, certainement. Notre objectif avec cette exposition, ouais, complètement, c'est que le public qui a l'habitude de venir au festival puisse le voir d'une manière différente avec ce qu'il ne voit pas forcément. Et puis pour les gens qui connaissent pas du tout le festival, de le découvrir aussi et de se rendre compte qu'il s'y passe beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de concerts, beaucoup d'art de rue, que ça touche un public qui va de 4 ans jusqu'à 100 ans. Ça nous a permis de nous replonger un peu dans l'histoire du festival. Et puis c'est des chouettes temps aussi d'équipe et associatif, parce qu'on l'a fait évidemment à plusieurs pour pouvoir collectiviser un petit peu ce travail-là. C'était assez agréable, même si c'était un peu émouvant et un peu dur psychologiquement aussi de retrouver toutes ces photos de fêtes, de gens sans masque, de gens qui boivent des bières devant des concerts. C'est toujours un peu compliqué émotionnellement parfois sur la durée, quoi. Là, on arrive dans un petit pôle un peu spécifique où on a vraiment une thématique où, pour le coup, c'est pas mal de photos de portraits d'artistes, tout en noir et blanc. Donc on a par exemple là, sous les yeux Jeanne Hadet et Étienne de Crécy, qui sont tous les deux sur la photo. Parce que le festival Les Trois Éléphants, mine de rien, il y a pas mal d'artistes qui reviennent de manière assez récurrente, qui sont des artistes vraiment coup de cœur du festival. Et c'est le cas pour Jeanne Hadet et Étienne de Crécy. Si j'avais une photo coup de cœur dans l'exposition, pour ma part, ça serait celle-ci. C'est une photo du groupe Girls in Hawaii, qui devait en plus revenir cette année sur le festival. C'est une photo qui a été prise par Ron Morris, qui est un photographe de longue date du festival également, où on voit du coup deux membres du groupe en train de faire de la balançoire au Jardin de la Périne, justement. Donc l'expo trouve un peu son sens ici en prenant des photos qui ont été prises ici même avec des artistes de renommée internationale. Donc là, on arrive devant quatre nouvelles photos, dont une photo qui est assez chouette aussi, qui est un gros tas de fûts de bière, parce que c'est aussi ça le festival, mine de rien. C'est aussi la fête, malgré tout. C'est un peu les coulisses du festival, ce que le public ne voit pas. On a mis en place un livre d'or. L'exposition est installée depuis quelques jours et il n'y a déjà plus beaucoup de place. Mais si vous venez nous voir, n'hésitez pas. Il reste un peu de place malgré tout, de petites zones blanches pour laisser vos ressentis sur l'exposition.
Une exposition visible jusqu'à dimanche soir. Notre dernier épisode demain sera consacré à la programmation Art de la rue qui vous attend ce week-end. Toco un purga na costela, vou tocar com umas ambos ambi funk da favela pra que fique todo bom. Vou tocar na primavera lá na Suíça com Nico. Para de beber, para de tomar. Vou tocar com meu irmão samba funk da favela pra que fique todo bom. Vou levar minha viola, um pandeiro e um surdão. Você vai buscar o Nicola, nem que seja de avião. Para de beber, para de tomar. Para de beber, senhor Nicola. Dernier épisode de notre série autour de l'édition 2021 du festival des Trois Éléphants. On le sait, cette année, malheureusement, il ne pourra pas y avoir de concert, mais pour autant, l'événement n'est pas du tout annulé. L'association organisatrice Poc Poc s'est adaptée aux conditions sanitaires en misant, vous l'avez sans doute remarqué dans le centre-ville, beaucoup sur la décoration, mais aussi sur les arts de la rue qui continuent donc d'être programmés tout ce week-end, ce samedi et dimanche dans les cours de certaines écoles ou lycées. Petit morceau choisi de la programmation justement avec Alicia Lepelletier de la Direction des Affaires Culturelles à la Ville de Laval.
En nouveauté, on a Léandre par exemple qui est un clown espagnol qui a un tout nouveau spectacle qui a été fait il n'y a pas très longtemps, et donc du coup, voilà, ils nous ont demandé s'il y avait de la place, parce qu'ils avaient très envie de revenir sur Laval. On leur a dit que, bah, en effet, il y a Léandre qui sera là, et aussi, par exemple, la compagnie DPK, avec Amédée, qui est un comédien qui a fait beaucoup de spectacles, qui est très connu dans le milieu, avec Voyage Capelle, et qui sera également de la partie cette année. Adoc qui nous fait le plaisir d'être là, qui devait être là l'année dernière et donc qui ont gentiment accepté de revenir cette année avec leur création de l'année dernière, qu'ils n'ont pas pu jouer énormément. Je crois qu'ils l'ont joué une seule fois devant un public en sortie de résidence. Donc du coup, on a un peu l'exclusivité de la première d'Adoc avec Qui Vive. Et ouais, on est super contents. Donc on a également les Batteurs de Pavés qui étaient déjà venus aux Trois Éléphants en 2018, je ne me trompe pas, qui avaient eu un super succès avec le public. Et donc cette année, ils reviennent avec également une création qui s'appelle Richard III ou Le Pouvoir Fou. C'est une compagnie suisse avec qui on a déjà travaillé. Pour eux, la venue à Laval va être assez sport parce que pour pouvoir entrer en France, ils vont devoir faire un test Covid. Pour rentrer chez eux, ils vont devoir faire un test. Ils vont être en mode très regardant et très pointilleux sur tout ce qui est hygiène et Covid, gestes barrières. Et pour eux, c'est hyper important de venir jouer, mais de jouer dans de bonnes conditions parce que voilà, leur venue n'est pas forcément facile à organiser. On a également une autre création, beaucoup de créations cette année. On a beaucoup de chance. création du Grand Colossal Théâtre avec la Chien-Li pour un fascisme ludique et sans complexe. Une seconde compagnie parisienne. C'est une coproduction du Festival des Trois Éléphants. On les avait reçus l'année dernière en résidence pour qu'ils puissent travailler sur leur spectacle. Donc là, ils ont dû retravailler leur spectacle parce qu'à la base, ça devait être une promenade avec les spectateurs. À cause du Covid, on va pas pouvoir faire ça comme ça. Donc ils ont retravaillé un tout nouveau spectacle aussi pour pouvoir être Covid compatible. Et donc c'est chouette, ils vont être hyper réactifs pour pouvoir jouer cette année dans les meilleures conditions. On a Leo, qui est un Néerlandais qui vient des Pays-Bas. Lui, c'est pareil, il va faire test PCR, parce que voilà, il va venir des Pays-Bas pour venir chez nous, pour repartir en Suisse juste après. Leo, qui fait plutôt du théâtre de marionnettes, c'est un spectacle qui est accessible à toute la famille. C'est pareil, il est déjà venu à Laval il y a quelques années, et on avait décidé de le faire revenir, parce qu'on trouve son spectacle assez chouette.
Você vai ver o seu pedaço no lugar.
Retour des agités du mois, mardi prochain à 19h avec un feuilleton sur les JO et un feuilleton sur le Tour de France.